Mes amis, comme nous vous l'avons annoncé hier soir, chaque matin, avant le petit déjeuner, nous aurons une courte méditation sur le thème de notre camp, qui donc est Dieu. Et le Seigneur nous a conduit à ne pas chercher à vous donner des définitions sur ce qu'est Dieu, car nous nous tromperions, car chaque fois que nous croyons parler de Dieu, nous disons souvent des bêtises. Nous voulons plutôt demander à des hommes et des femmes aussi qui ont rencontré Dieu ce qu'ils nous disent, lui, eux, de ce qu'est Dieu. Et hier soir, nous avons ouvert le camp par cette parole de Jérémie au chapitre 31 où nous lisons « L'Éternel m'est apparu de loin » et ce qu'il a dit à cette âme qu'il aimait « Je t'ai aimé d'un amour éternel, c'est pourquoi je t'attire avec bonté. » Eh bien, dans cette journée du 19 juillet, nous allons demander à un homme auquel Dieu est apparu au moins 12 fois dans sa vie. Il nous raconte 12 fois les entretiens qu'il a pu avoir avec Dieu. Et nous allons lui poser cette question, qui donc est Dieu? Et je vous dirai tout de suite que c'est un homme qui peut nous dire, bien moi, j'ai vécu 100 ans avec Dieu. J'ai appris à le connaître quand j'avais 75 ans. Et je vivais au milieu des païens. J'étais un adorateur d'idoles avec ma femme et mes parents. Nous habitions une ville réputée jadis. Et un jour, moi, adorateur d'idoles qui ont une bouche et ne parlent point, qui ont des yeux et ne voient point, des oreilles et n'entendent point, un nez et ne sentent point, point des mains qui ne touchent pas, des pieds qui ne marchent pas, eh bien, figurez-vous que moi, je l'ai rencontré. Et il m'a parlé. Et maintenant, je sais qui est Dieu. Je dirais qu'il est un Dieu vivant, qui a une bouche et qu'il parle. J'ai entendu sa voix. Il a des yeux et il regarde. Je connais son regard. Il m'a regardé. Et dans ce regard, j'ai senti l'immensité de son amour. Son cœur, mon cœur a été conquis par son cœur. J'ai su que j'étais aimé et que sa main pouvait être une main qui caresse. J'ai su aussi que je pourrais marcher avec lui, qu'il serait mon compagnon et qu'il deviendrait même mon ami. Vous l'avez reconnu, cet homme qui peut témoigner ainsi de Dieu et qui nous dit, et vous savez, il m'a accompagné jusqu'à la fin de ma course et il m'a repris dans une douce et heureuse vieillesse. Je m'appelle Abraham. Je suis né en Mésopotamie et là j'ai vécu 75 ans sans le connaître vraiment, en étant dans l'illusion de tout ce que m'avait enseigné la maison de mon père et les traditions de mes ancêtres. Mais maintenant, je puis vous parler de celui qui m'a fait sortir de ce paganisme. Et j'ai pu convaincre ma femme, ma Sarah, et qui a accepté de me suivre. Il fallait tout quitter, mais quand on l'a rencontré, eh bien, on n'a plus qu'un mot d'ordre. Quand Dieu parle, c'est Dieu d'abord. Et je n'ai pas écouté d'autres voix, celles de mon entourage. Je suis parti, ne sachant pas où il me conduirait, mais j'avais sa parole, alors je l'ai cru. Et sur ma route, il m'est apparu à plusieurs reprises. Alors, je vais résumer ce que je peux vous dire de Dieu. Je l'appellerai, premièrement, le Dieu vivant, parce que il est vivant, et je le sais. J'ai vu son regard, j'ai entendu sa voix. Il est le Dieu très haut. C'est ainsi que j'ai pu l'appeler. Et quand le roi de Sodome a voulu m'offrir toutes les richesses du monde, j'ai pu lever ma main en lui disant, j'ai levé ma main vers le Très-Haut, possesseur des cieux et de la terre. Le Dieu vivant, eh bien, c'est le possesseur des cieux et de la terre. C'est le Dieu Très-Haut. Et j'ai pu dire au roi de Sodome et à ses richesses, rien pour moi. Dans mes relations avec le monde, rien pour moi. Et il m'avait appris aussi que quand on a un conflit avec notre frère, même si notre frère est plus jeune que nous, comme ce fut le cas avec Lot, j'ai compris que je pouvais lui dire, toi d'abord, choisis d'abord. Moi, mon choix, c'est plus moi qui choisis. J'ai le choix de Dieu. Ce que Dieu voudra pour moi me suffit. Voilà ce que je peux dire de Dieu, de mon Dieu, le Dieu vivant. Et ce qu'il m'a dit encore, de ce qu'il était, un jour il m'est apparu et il m'a dit, je suis ton bouclier et ta très grande récompense. Alors je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu vas me donner? Et vous savez, il a parlé, il m'a fait une promesse incroyable, et je l'ai cru. Et cela me fut compté à justice. Et alors, j'ai pu le connaître comme le Dieu Tout-Puissant. Je suis le Dieu Tout-Puissant, m'a-t-il dit, marche devant ma face et sois parfait. Et vraiment, dans le chemin, en marchant avec lui, j'ai connu son amitié. Il me disait, ne crains point, je suis avec toi, ne sois pas inquiet. Je suis ton Dieu. Je te fortifierai, oui, je t'aiderai, oui, je te soutiendrai par ma droite triomphant. Il était vraiment mon ami. Il ne me cachait rien. Et même un jour, il m'a révélé ce qu'il allait faire dans une ville, Sodome et Gomorre, qu'il allait détruire. Et j'ai pu me jeter à genoux parce qu'il y avait là mon neveu qui habitait là. Et je lui ai parlé, j'ai osé parler au Seigneur de toute la terre. Et je lui ai dit, toi le juge de toute la terre, est-ce que tu ferais périr le juste avec le méchant? Et il m'a répondu, s'il y a 50 justes à Sodome, j'épargnerai la ville. Et je suis descendu jusqu'à 10, mais je n'ai pas osé aller plus loin. Mais il me répondait avec amour, le juge de toute la terre. Mais le dernier mot que je dirai de lui, c'est un jour il m'a éprouvé. Il m'a demandé mon unique, mon fils, mon Isaac, qui était le fils d'un miracle de Dieu. Eh bien, j'ai compris que je devais lui donner. De sorte que pour moi, toute ma vie se résume en ceci. Dieu d'abord, toi d'abord dans mes relations avec mes frères, rien pour moi dans mes relations avec le monde, tout pour Dieu quand lui demande, même les dons qu'il nous a faits. Nous avons tout reçu de lui, nous devons être prêts à tout lui rendre. Est-ce que je sais? C'est qu'il m'a appris là qu'il pouvait tout me redonner par une sorte de résurrection. Et si vous saviez que mon Isaac m'a été plus cher après qu'il me l'eût redonné. Et ce que je peux vous dire, c'est que j'ai appelé la montagne du sacrifice Jéhovah Jiré, c'est-à-dire à la montagne de l'Éternel, il y sera pourvu. Qui donc est Dieu? Eh bien voilà mon témoignage. Et je m'appelle Abraham. Dieu notre Père, nous te louons. Nous te bénissons de tout notre cœur parce que tu es le Dieu qui te révèle, et nous te rendons grâce parce que à 75 ans encore, tu as pu te révéler à cet Abraham en plein paganisme. Et ce qu'il nous laisse maintenant, c'est un exemple. Et nous voudrions être vraiment appelés ici les enfants d'Abraham. Non pas parce que nous descendrions de lui d'une manière charnelle, mais parce que nous sommes devenus ses fils et ses filles spirituelles, marchant dans les traces de la foi qu'a eu Abraham, qui, contre espérance, crut avec espérance, parce que pour lui, ta parole était une parole infaillible. Louange à toi, Dieu notre Père, qui t'es révélé à nous dans le Seigneur Jésus. Amen. Mes amis, ce dimanche 20 juillet, nous continuerons de traiter notre thème qui donc est Dieu. Et nous vous rappelons la première parole d'ouverture de ce camp. L'Éternel m'est apparu de loin. Je t'ai aimé d'un amour éternel. C'est pourquoi je t'attire avec bonté. Nous vous avons dit que nous ne voulions pas vous donner des définitions sur Dieu, le seul être qui doit être adoré. Or, vous le savez, on n'adore pas ce qu'on peut définir. C'est pourquoi nous avons été conduits à demander à des hommes de chair comme nous, qui avaient les mêmes passions que nous, qui donc étaient le Dieu qu'ils avaient adoré. Hier, c'était Abraham, l'adorateur par excellence, et qui a été interrogé sur ce que Dieu était pour lui, puisque Dieu s'était révélé à cet homme. Vous savez qu'en montant sur la montagne de Morija avec son fils, quand il laisse ses serviteurs, il leur dit qu'ils vont sur la montagne pour adorer. C'est la première fois que nous trouvons le mot adorer dans la Bible, dans Genèse, verset 22. Cet homme, donc, avait 75 ans quand il a fait cette rencontre avec Dieu au pays des Chaldéens. Et nous avons vu qu'il avait vécu, depuis sa rencontre avec le Seigneur, 100 ans, mourant dans une heureuse et bonne vieillesse. Ce matin, je voudrais questionner un homme qui vécut avant Abraham et qui ne mourut point. Car, évidemment, même les hommes de Dieu doivent mourir. Et vous l'avez déjà pressenti, vous avez déjà reconnu l'homme que nous allons questionner. Il s'appelle Enoch. Il est le 7e depuis Adam, et vous trouvez ce récit dans le chapitre 5 de la Genèse. Il était fils de Jéred, et la signification du nom de Jéred est quelque peu prophétique. Cela veut dire descente. Oui, l'humanité descendait de plus en plus dans le mal au temps où Jéred engendra Enoch. Et quel âge avait-il, ce Jéred? Il avait 162 ans quand il a engendré Enoch. Et après la naissance d'Enoch, qui veut dire instruit, enseigné, Jéred vécut encore 800 ans. De sorte que Jéred est mort à l'âge de 862 ans. C'est bien, hein? Mais après 862 ans, il mourut. Et c'est d'Enoch que nous apprenons qu'après avoir vécu 65 ans, lui aussi a fait une rencontre avec Dieu. Depuis sa naissance, il a vécu 65 ans, on ne sait pas ce qu'il faisait, mais à 65 ans, il a eu sa rencontre avec Dieu. Et dès ce moment-là, savez-vous combien d'années il a marché avec Dieu sans se lasser, avec une fidélité absolue. Il a vécu 300 ans. 300 ans avec Dieu, il a marché. Et pourtant, il a engendré des fils et des filles. Dans ces 300 années, il était un homme de chair comme nous, et il a vécu selon la pensée du Seigneur, croissez et multipliez. Mais pour autant, il était un homme qui marchait avec Dieu. Et à l'âge de 65 ans, il avait engendré l'homme qui allait vivre le plus longtemps dans ce monde et qui s'appelait Methusalem, qui lui a vécu 969 ans. Mais même après 969 ans, Methusalem mourut. Tandis qu'Enoch, il est dit que lui, après ses 300 ans, il disparut. Il ne fut plus, non pas parce qu'il mourut, mais il est dit que Dieu le prit. Enoch a donc disparu alors que son père vivait encore et avait 527 ans. Mais que savons-nous d'Enoch? Et que peut-il nous dire de Dieu? Je l'ai déjà souligné, à 65 ans, il commença à marcher avec Dieu dans un temps où la violence et la corruption se propageaient de plus en plus sur la terre, alors même qu'il y avait une race de géants, des hommes importants dont on signalait les exploits, mais au temps de tous ces exploits, la corruption la plus totale, l'injustice, la violence étaient sur la terre, comme aujourd'hui. Cela préparait le temps du déluge. Eh bien, dans ce temps de perversité, mais aussi dans ce temps où il y avait des grands hommes qu'on idolâtrait, eh bien, Enoch s'est distingué en marchant avec Dieu. Et qu'est-ce que cela veut dire, marcher avec Dieu? Bien, nous le savons, Enoch marchait dans la lumière, car marcher avec Dieu, c'est marcher dans la lumière. Marcher avec Dieu, c'est marcher dans la pleine révélation de ce que Dieu est. Marcher avec Dieu, c'est marcher aussi dans la vérité, en ayant absolument renié le mensonge, car il n'y a aucun mensonge en Dieu. Et si nous voulons la bénédiction, nous devons bannir de notre cœur le mensonge, car le mensonge est une invention du diable. Il est le père du mensonge. Et si vous voulez être libéré de toute servitude, apportez votre mensonge au Seigneur. Dites-lui qu'il est mort aussi pour votre mensonge et vous serez entièrement purifié et vous cesserez d'être de ces chrétiens menteurs, car ils détruisent le témoignage qu'ils veulent rendre par leur mensonge. C'est marcher aussi dans l'amour du Seigneur, avec un cœur plein de chaleur pour Jésus-Christ. Marcher avec Dieu, c'est marcher dans la foi, marcher comme voyant déjà les choses qui sont invisibles. Et alors c'est Enoch, il nous est dit qu'il prophétisait. Et que disait-il? Il prophétisait en ces termes. Il disait, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exécuter le jugement contre tous, pour faire rencontre à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les grandes injustices et de toutes les paroles injurieuses qu'ils ont proférées contre lui. Voilà ce qui était enseigné avant le déluge par la bouche d'Enoch et qui pouvait dire que le Dieu avec qui il marchait était le Seigneur. Et pour lui, ce Seigneur, il était déjà venu. Et il plaisait tellement au Seigneur, il était tellement agréable au Seigneur, qu'au bout de ces 300 ans, Dieu lui a dit, tu es trop loin de ta maison, entre chez moi. Il l'a pris. Il l'a pris. Et il ne fut plus parce que Dieu l'a pris. Il a été enlevé et il est un de ces hommes qui a déjà été transmué et qui se trouve auprès du Seigneur. Et qui est pour nous, et c'est pourquoi j'ai été conduit ce matin à vous parler de lui, de cette nouvelle extraordinaire. Le Seigneur, pour nous, il est déjà venu. Notre cœur est déjà dans le ciel. Alors qu'est-ce que nous attendons? Qu'il transforme aussi notre corps. Sans que nous ayons besoin de passer par la mort et le tombeau, les humiliations du sépulcre, et qu'il nous prenne auprès de lui. Mes bien-aimés, est-ce là votre espérance? Il y a dans l'Écriture des textes qui sont probants et qui nous disent qu'il y a une génération d'hommes et de femmes qui ne passeront pas par la mort et qui seront subitement, d'un moment à l'autre, alors qu'on ne sait ni le jour ni l'heure, enlevés auprès du Seigneur. N'attendez pas la mort pour être prêt ou pour vous préparer avant la mort. Le Seigneur peut être venu et aura enlevé les siens. Tandis que les impies, ceux qui voudront continuer dans leur chemin de moquerie, ne croyant pas au retour de Jésus, eh bien, le rencontreront quand il viendra alors. Avec son Église qu'il aura préalablement enlevée et ses saintes myriades pour apporter le jugement. Le jugement alors que nous ne serons pas jugés, puisque nous avons accepté Jésus qui a été jugé pour nous. Que ces pensées orientent nos méditations de ce jour, et que nous nous souvenions d'Enoch qui appelait Dieu le Seigneur. Dieu notre Père, nous te bénissons parce que ce n'est pas fatalement la mort qui nous attend. Nous avons une espérance bienheureuse, celle d'être enlevé d'un instant à l'autre, de disparaître de la scène de ce monde, pour entrer chez nous, là-haut, chez toi, et chez toi, apprendre que c'est là que nous sommes vraiment chez nous. C'est ce miracle. Et bénis ce repas dans ton amour. Amen. Nous continuons dans cette matinée du 21 juillet, notre thème, qui donc est Dieu. Et je vous cite encore le verset qui a ouvert notre camp, l'Éternel m'est apparu de loin, je t'ai aimé d'un amour d'éternité, c'est pourquoi je t'attire avec bonté. Jérémie 31, verset 3e. Mes amis, nous sommes toujours plus désireux de connaître Dieu de près, non seulement de le connaître de loin, mais de le connaître d'une façon intime. Et nous voulons nous garder, comme nous l'avons déjà dit, de donner des définitions sur ce qu'est Dieu. Nous continuerons donc de poser la question à une troisième personne ce matin qui a eu une révélation de Dieu. Le nom de cet homme signifie rire, car avant sa naissance et avant sa conception, son père et sa mère ont ri en pensant qu'ils auraient un enfant. Vous avez deviné son nom, vous l'avez reconnu. L'homme que je vais interroger s'appelle Isaac, qui veut dire rire. C'est donc le fils d'Abraham. Alors, écoutons-le. Qui donc est Dieu pour toi, Isaac? Il peut nous dire qu'il est né alors que son père avait 100 ans et sa mère 90 ans. Et que dès son enfance, sa mère, Sarah, lui racontait comment son père avait rencontré le Dieu vivant. Elle se souvenait de cette journée où à Ur de Chaldée, où ils habitaient, Abraham était venu lui dire, mais maintenant je sais qui est Dieu, ce ne sont pas ces idoles que nous adorons, car le père d'Isaac était païen. Et ils étaient partis, cette histoire, Isaac la savait par cœur. Et il continue de nous dire qu'en grandissant, son père lui apprenait à bâtir un autel qui lui offrait des holocaustes. Et souvent, il lui racontait comment Dieu lui parlait. Et Isaac nous dit que son père appelait Dieu le Dieu très haut, le tout-puissant, le Dieu de l'éternité. Et alors, il nous dit qu'un beau matin, son père l'a réveillé, oui, avant l'aurore. Il avait fondu du bois, et avec deux de ses serviteurs et un âne, il se mit en route. Il avait dit à Isaac que Dieu lui était apparu dans la nuit, et qu'il devait se rendre dans un endroit pour y adorer. Et de Beersheba, Isaac peut nous dire qu'ils marchèrent durant 3 jours et tout à coup, son père a vu la montagne que Dieu lui avait désignée. Et Isaac peut nous dire aussi que tout le long du chemin, il voyait son père préoccupé comme il ne l'avait jamais vu. Et son père, par moments, le regardait avec une intensité d'amour extraordinaire, que Isaac aurait pu pleurer en sentant dans le regard de son père, durant ces 3 journées, un amour, mais qui l'inondait réellement. Puis au pied de la montagne, Isaac nous dit que Abraham a dit à ses serviteurs, vous resterez là avec l'âne. Alors mon père a mis le bois qu'il avait fendu sur moi et nous sommes montés les deux ensemble. Mais j'étais très étonné parce que je savais comment on offre l'holocauste. Mon père me l'avait appris. Alors j'ai dit à mon père, mais voilà, il y a le bois ici, tu as dans ta main le feu. Et où est l'agneau pour l'holocauste? Et mon père m'a répondu, le Seigneur pourvoira lui-même à cet agneau. Puis nous sommes arrivés sur ce mont Morija et j'ai aidé mon père à bâtir l'autel comme je l'avais fait les autres fois, mais je ne voyais toujours pas cet agneau. Puis tout à coup, je ne sais pas ce qui est arrivé à mon père, mais il m'a pris dans ses bras, il m'a serré avec une telle force, et puis il m'a comme soulevé, et puis il m'a placé moi-même sur le bois. Alors, j'ai cru d'abord que mon père, malgré son âge, voulait un peu jouer avec moi, mais tout à coup, il s'est mis à me lier sur le bois. Mais je l'ai laissé faire, je ne pouvais pas lui résister. Il me regardait avec tellement d'amour. Mais tout à coup, lorsque j'étais sur le bois, je l'ai vu prendre le couteau. Et alors là, j'ai été saisi d'une horrible frayeur. J'ai dit, mais est-ce que mon père est devenu fou? Est-ce que mon père est devenu fou? Il m'a pourtant enseigné qu'on ne devait pas sacrifier des enfants, mais je n'étais plus un enfant, j'étais un jeune homme, mais je n'y avais pas résisté. Et alors, j'ai été absolument terrifié par tout le couteau arrivé. Et c'est là que moi aussi, pour la première fois, j'ai entendu la voix de Dieu sur cette colline, alors que j'étais lié sur le bois de l'autel. Et qu'est-ce qu'il disait? Ce Dieu qui était apparu à mon père dans Chaldée, il disait ceci, « Abraham, Abraham !» Et mon père a dit, « Me voici, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Et à ce moment-là, mon père a levé les yeux, et derrière nous, pas devant nous, mais derrière nous, nous avons vu un bélier qui était retenu par les cornes dans un buisson. Et c'est le bélier qui a été sacrifié à ma place. Mon père m'a délié. Nous étions dans une joie et dans une reconnaissance infinie. Et tout à coup, de nouveau, pour la seconde fois, nous avons entendu la voix du Seigneur qui dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Alors, me dit Isaac, nous sommes redescendus dans la reconnaissance à notre Dieu. Mais maintenant, je savais qui était Dieu et sa crainte désormais était dans mon cœur. Mais je savais que si j'avais la vie sans, c'est parce que lui était intervenu en ma faveur, parce qu'il avait donné lui-même l'agneau qui mourait à ma place. Alors nous sommes retournés vers ma mère bien-aimée, Sarah, qui mourut à son 27 ans. Je l'aimais tellement, j'avais vécu quand même 37 ans avec elle. Et je me souviendrai toujours de ce moment où ma mère mourut. Nous étions désolés, j'ai vu mon père pleurer sa bien-aimée, qu'il trouvait belle jusqu'au dernier jour. Et puis, j'ai vécu encore avec mon père, mais sans ma mère. J'avais 40 ans et mon père sans 40 ans. Et nous avions un vieux serviteur. Un jour, mon père a appelé son vieux serviteur Eliezer et lui a commandé d'aller dans un pays éloigné pour me trouver une femme. Moi, je n'ai rien répondu parce que ce que mon père faisait, il le faisait toujours dans la direction de ce Dieu dont moi aussi je connaissais la voie. Alors je me suis remis à ce Dieu qui m'avait sauvé. Et quand Eliezer est revenu, il avait à ses côtés, oh, une femme si belle. Si moi j'avais dû choisir, j'aurais pas trouvé. Mais il m'amenait Rebecca, cette femme merveilleuse, et qui m'a consolé quant à ma mère. Nous n'étions plus seuls. Et voilà, j'avais 40 ans quand je me suis marié ainsi. Mais il y a eu quelque chose, c'est que Rebecca aurait aimé avoir des enfants et nous ne pouvions pas en avoir. Alors je me suis dit, mais puisque il m'a sauvé la vie, il pourrait peut-être me répondre. Alors j'ai prié et en priant, Dieu me l'a donné. Deux enfants. Mais là, il y avait aussi toute une histoire. C'est que ma femme était enceinte, moi j'avais 60 ans, puis elle me disait que ça bougeait dans son ventre, que c'était quelque chose d'impossible, un vrai match. Alors, j'ai dit, mais qu'est-ce que nous devons faire? Elle aurait bien voulu qu'il y ait déjà ce que vous appelez aujourd'hui l'échographie, mais il n'y avait pas ça. Alors, on a consulté l'Éternel, elle est allée consulter l'Éternel, qui lui a dit tout de suite, il y a deux nations dans ton ventre. Alors, vous voyez, avec ce Dieu-là, il sait tout, c'est lui qui nous a donné ses enfants, et nous les avons appelés Ésaü et Jacob. Et puis, nous avons continué d'être dans la direction de notre Dieu. Nous étions donc étrangers dans le pays, mais pourtant, un jour, et c'est là que j'ai eu ces apparitions personnelles pour moi, il y avait une grande famine dans tout le pays, et j'avais pensé descendre en Égypte, et tout à coup, Dieu m'apparaît et me dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays, je serai avec toi, je te bénirai, car je te donnerai toutes les contrées que toi et ta à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je te donnerai à ta postérité ses contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. J'entendais la même voix que sur le mont Morija et il ajoutait parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Alors j'ai compris que la piété de mon père me valait la bénédiction de Dieu. Alors j'ai obéi, je suis resté à Guérar, dans le pays des Philistins, et j'ai semé cette année-là. Et savez-vous ce qu'il y a eu? J'ai récolté au centuple. Ça, ça venait de Dieu, du Dieu de mon père, car j'avais réalisé que Dieu se réclamait des hommes, il se réclamait de mon père, le Dieu d'Abraham. Mais quand on a vu les récoltes que j'avais, les Philistins m'ont chassé du pays, et ils m'ont fait toute espèce d'ennui, mais à nouveau, le Seigneur m'est apparu, et alors, moi, à Beersheba, quand le Seigneur m'a dit, malgré les Philistins, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains rien, je suis avec toi, je te bénirai, je te multiplierai à cause d'Abraham, mon père. Alors moi aussi, j'ai bâti un autel à l'Éternel. Et savez-vous ce qui est arrivé? Eh bien, alors que j'étais à Beersheba, tout à coup, qu'est-ce que je vois arriver? Nos ennemis, Abimelech, le roi de Guérar, et puis Col, et puis son ami, le chef de son armée. Et je leur dis, mais pourquoi vous venez-vous vers moi? Vous m'avez chassé du pays. Nous avons vu que le Seigneur était avec toi et qu'il t'a béni. Nous voulons traiter une alliance avec toi. Alors, vous voulez savoir qui est Dieu? C'est le Dieu auquel, si on lui obéit, on peut remettre avec toute confiance notre vie, et il se charge de nous réconcilier même avec nos ennemis. Voilà le Dieu que j'ai connu par mon père et qui s'est révélé à moi aussi personnellement. Dieu notre Père, tu es le Dieu des hommes, et nous te bénissons parce que tu es le même, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac. Nous voulons te demander qu'au cours de ce camp, nous puissions avoir aussi une révélation personnelle de toi, même si nous devons être effrayés comme Isaac l'a été, que nous nous laissions faire. Que nous puissions croire à ton amour, puisqu'Isaac pouvait croire à l'amour de son père, seulement en voyant son regard. Dieu notre Père, bénis-nous de ta bénédiction et merci pour la nourriture que tu nous donnes. Toi qui donnes une semence au centuple, même au temps de la famine. Amen. Ce mardi matin, 22 juillet, notre thème, qui donc est Dieu. Et une fois de plus, je vous relis le texte qui a ouvert notre camp. L'Éternel m'est apparu de loin. Je t'ai aimé d'un amour éternel. C'est pourquoi je t'attire avec bonté. Allons-nous nous laisser attirer ce matin? Mais qui donc est ce Dieu qui veut nous attirer? Quand Jésus était sur la terre, il appelait Dieu son propre Père. Et il disait aussi que son Dieu était le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, qui n'était pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, car pour Dieu, disait-il, tous sont vivants. Alors, toujours à l'école de Jésus et conduit par lui, nous avons demandé à Abraham et à son fils Isaac, qui donc était leur Dieu. Alors, il convient maintenant, me semble-t-il, de questionner également Jacob, ce fils d'Isaac, qui devait devenir Israël. Ce Jacob est aussi un de ces hommes et qui peut nous raconter quand il eut sa première rencontre avec Dieu. Il avait 77 ans et il s'enfuyait de la maison paternelle parce que son frère, car il avait un frère, avait décidé de le tuer. Et c'était un endroit qui s'appelle Luz, maintenant qu'on appelle Bethel, qui lui qui avait été pourtant bien enseigné dans la foi d'Isaac, son père, dans la foi de Jacob, qui lui, pour la première fois, cette révélation personnelle qui allait quand même changer sa vie. Alors, nous le questionnons. Il nous dit donc qu'il était le cadet des jumeaux d'Isaac et de Rebecca, sa mère. Et il peut même nous dire que on lui a raconté ce qui s'est passé avant sa naissance. Sa mère enceinte était troublée par les mouvements qui se produisaient dans son ventre. Elle était allée trouver l'Éternel qui lui avait dit que deux nations se trouvaient en son sein et que le plus grand serait asservi au plus petit. Et il nous dit que déjà, dans ce qu'on lui a raconté, quand il est né, c'est bien Ésaü, celui qu'on a appelé Ésaü, qui était couvert de poils, qui était roux. Alors, il nous dit qu'il tenait déjà par le talon son frère, au moment de la naissance. Alors, il s'était bien souvenu de cela, et il se demandait quand même, mais comment? Je me suis demandé comment se réaliserait ce que ma mère a dit, que c'est moi qui dominerais. Mais ce n'est guère possible parce que c'est bien Ésaü qui avait le droit d'aînesse. Alors il nous dit que Ésaü était le préféré d'Isaac parce que Ésaü était un homme fort et il était un grand chasseur devant l'Éternel et son père Isaac aimait beaucoup le gibier. Alors Ésaü flattait la gourmandise de son père, tandis que lui, bien il était le petit, un homme plutôt faible, qui aimait beaucoup sa mère et qui restait plutôt près d'elle pour être initié dans l'art culinaire, car sa mère était une excellente cuisinière. Elle savait même apprêter un chevreau comme si c'était un animal de chasse, comme si c'était un gibier excellent. Alors, Jacob continue de nous raconter qu'il était vraiment troublé, et puis il aimait tellement sa mère parce que sa mère lui racontait combien elle avait de respect. D'Abraham, qu'il lui avait raconté toute la vie d'Abraham dans un voyage extraordinaire qu'elle avait fait avec cet Eliezer qui était venu la chercher en Mésopotamie pour l'amener à Isaac. Et elle lui avait raconté comment elle était devenue la femme d'Isaac. Et Jacob nous dit, mais vous savez, mon père, il était fou d'amour pour Rebecca. Et il l'aimait tellement que quand il allait en voyage, il lui disait, écoute, hein, j'ai tellement peur qu'on te tue et qu'on te vole à moi, dis que tu es ma sœur. Mais ça avait l'air de passer, mais le brave Isaac, il dit que il l'aimait tellement qu'il ne pouvait pas s'empêcher de décoter sa femme, alors qu'il croyait que personne le voyait. Et puis un roi avait regardé par la fenêtre et il avait vu cet Isaac qui disait que c'était sa sœur. Et il m'a dit, c'est pas possible, hein, on te connaît trop quand même comme un homme sérieux. Si tu ne peux pas faire ça à une autre qu'à ta femme, les caresses que tu lui fais, je t'ai vu faire des caresses. Tu crois que personne ne t'a vu? Mais je ne peux pas croire que c'est une autre femme. Tu ne peux pas tromper ta femme. Hein? Alors, il avait dû dire, bien oui, c'est vrai, mais j'avais peur. Isaac était un faible. Il était assez souvent effrayé, mais vous vous souvenez, il avait eu une grande frayeur. Et quelquefois, il était encore tout effrayé. Alors, Rebecca savait que son mari était assez faible, mais elle croyait aux promesses qui avaient été faites à Abraham, et elle voulait que ce soit vraiment son Jacob, et qui soit l'héritier de la promesse, puisque Dieu le lui avait dit. Elle croyait la parole de Dieu, mais elle pensait quelquefois que ça allait aider Dieu. Et Jacob nous dit, moi aussi, je me disais, il faudrait au moins que j'ai le droit d'aînesse, parce que ça ne marchera pas. Alors figurez-vous qu'un jour, raconte-t-il, voilà que mon Ésaü arrive, fatigué de la chasse, et puis moi j'avais préparé un potage, alors il me dit, donne-moi de ce roux-là. Alors je lui ai dit, ben écoute, si tu veux mes lentilles, donne-moi ton droit d'aînesse. Puis, voyez-vous, Ésaü a dû mourir. J'en peux plus que mon droit d'aînesse. Bien sûr, c'est Dieu qui avait institué ça, mais il a pensé qu'il ne se priverait pas de la bénédiction, même s'il se privait de la parole de Dieu, parce qu'il était profane. Alors Jacob a eu le droit d'aînesse, mais ça ne lui apportait pas encore la bénédiction du Père. Et alors c'est là que sa mère veillant avait entendu Isaac, qui vient, et qui a dit à Ésaü, tu sais, je ne sais pas le jour de ma mort, alors je voudrais vraiment te donner la bénédiction. Mais prépare-moi un bon repas, hein, parce qu'il était gourmand, et va à la chasse, trouve-moi du gibier, et je te donnerai la bénédiction. Quand Rebecca a su cela, elle s'est dit, mais quand même, Isaac sait aussi que c'est pas Ésaü qui doit avoir la bénédiction. Et puis, il est tellement faible qu'il va se laisser aller. Eh bien, moi, je prends le taureau par les cornes. Et puis, peu importe, hein, nous nous arrangerons. Alors, elle me dit comme ça, tu sais, mon petit Jacob, mais j'avais quand même 77 ans à ce moment-là, hein, mais j'obéissais encore à maman. Alors, il dit, tu sais, mon petit Jacob, tu vas faire ce que je te dis, hein. Tu vas faire ce que je te dis. Tu vas aller prendre un chevreau, tu le tues, moi je l'apprêterai très bien, je sais ce que ton père aime, et tu le lui apporteras. Et, mais il saura bien que c'est moi. Mais ça fait rien, on va s'arranger. Je m'en vais mettre les plus beaux habits d'Ésaü que j'ai encore chez moi, tu vas les mettre, tu sentiras l'odeur d'Ésaü, parce que les habits sentent notre odeur, hein, et alors tu te présenteras. Mais Jacob dit, mais moi je suis tout nu là-dessus, j'ai pas de poils sur les mains. On va s'arranger avec les chevreaux, je m'en vais mettre les poils là sur les mains, les peaux sur les mains, et puis ça. Mais Jacob, c'est trop risqué. Si papa découvre cela, il va me maudire. Mais ma mère, dit Jacob, c'est une femme courageuse. Elle a dit, la malédiction, je la prends sur moi. Attention, attention à ce que vous dites. Hein. La malédiction, je la prends sur moi. Et alors, je fais ce qu'elle m'a dit. Mais vous savez, on était un peu habitués à mentir dans notre famille. C'est embêtant, parce que j'ai dû sortir un chapelet de mensonges, parce qu'un premier mensonge m'a amené un deuxième mensonge, un troisième mensonge, et je savais plus comment faire. Alors, je suis venu tout tremblant, et puis papa Isaac était là, et il était à peu près aveugle. Alors, il dit, qui es-tu, mon fils? Je suis ton fils Ésaü. Ton fils Ésaü, tu es mon... Oui, je t'apporte ce que tu m'as demandé, mais comment cela se fait-il que tu aies trouvé si facilement du gibier? C'est l'Éternel, ton Dieu, qui l'a fait venir devant moi. Vous voyez, on emploie le nom de Dieu, et puis alors voilà, je t'ai apprêté cela. Mange, papa, bois, et puis mon père a dit encore, mais es-tu vraiment Ésaü? Oui, je suis ton fils, Ésaü. Et c'est bizarre, c'est la voix de Jacob. Mais avance près de moi. Et puis, il frotte sur mes mains. Il dit, C'est la voix de Jacob, mais ce sont les mots des anges. Alors, embrasse-moi, baise-moi. Ou encore un baiser, hein. Oh, les baisers. Et alors, j'ai baisé mon père, et puis il a senti. Il a reniflé. Il a dit, oui, c'est l'odeur des naïfs. Alors il est parti, il a donné la bénédiction en parlant l'odeur de son fils, et c'était aussi l'odeur de la campagne, et c'est moi qui avais la plus grande bénédiction, la bénédiction de mon père. Et il a terminé en disant, celui qui te maudira sera maudit, celui qui te bénira sera béni. Alors moi je suis reparti, je n'étais pas très fier. Mais voilà que immédiatement après, c'est mon fils, mon frère qui arrive. Alors c'était un drame, vous pouvez bien vous imaginer. Quand Ésaü s'est présenté, mon père qui tue, ben, je suis ton fils, Ésaü. Mais comment? Alors mon père a été, on l'a vu tout trembler, on a cru qu'il aurait une crise cardiaque, parce qu'il a eu une frayeur de nouveau, une frayeur effroyable. Mais voilà, ton frère est venu, et il a pris la bénédiction, et il est béni, et il sera béni. Alors voilà un peu le début de ma vie. Maintenant, si je devais vous raconter tout le reste, ce serait trop long, vous y seriez encore ce soir. Alors, je dois abréger et vous dire que ce qui s'est passé, mais mon frère voulait me tuer. Alors, ma mère, très dans la ligne d'Abraham, a voulu que je parte en Mésopotamie pour trouver une femme qui me conviendrait. Et je suis parti avec la bénédiction de mon père, parce que mon frère s'était marié, puis lui, il avait pris deux femmes. Il était polygame, au fond. Tandis que Isaac, quand même, m'a donné l'exemple de l'homme qui voulait en avoir qu'une femme. Et j'avais aussi un peu cette pensée. Alors, je suis parti, puis ce qui est arrivé, je vous dis simplement, ma première rencontre, le soir, j'étais fatigué, je me suis couché dans un lieu où la nuit venait, et j'ai eu cette révélation. L'échelle, vous connaissez peut-être cette histoire, vous l'avez peut-être lu dans la Bible, eh bien, je passe plus loin, mais quand je me suis réveillé, j'avais entendu la voix du Dieu de mon père, la voix du Dieu d'Abraham, il s'était révélé aussi à moi, et il m'avait dit qu'il me bénirait, et qu'il accomplirait toutes ses promesses sur moi. Alors moi j'ai fait un marché avec lui, j'ai dit, si tu me ramènes, tu seras mon Dieu. Puis voilà, je suis parti et j'ai trouvé Rachel. Je l'ai aimée follement aussi. Elle ressemblait tellement à sa tante, à ma propre mère, que j'aurais fait n'importe quoi pour elle. Et là-bas, mon oncle m'a bien reçu et il m'a dit, bien, tu pourrais me servir. Et je lui ai demandé comme salaire Rachel. Et pendant 7 ans, je l'ai servi. Mais voilà que le jour de mon mariage, dans cette nuit-là, ben, j'ai su ce que c'était qu'être trompé. Vous savez, c'est pas drôle, hein. Moi, j'avais trompé, et voilà que j'ai été trompé. Le matin, c'était pas Rachel qui était dans mon lit, c'était Léa. Il n'y avait pas l'électricité de ce temps-là. Alors, que voulez-vous? J'ai dit, tu m'as trompé, j'étais fou de rage, mais voilà, il m'a dit, tu comprends, c'est comme ça, la coutume, on ne donne pas la plus jeune d'abord, on donne la plus âgée. Mais tu en auras deux comme ça, fais-moi encore 7 ans pour l'autre. Alors j'étais là pour 14 ans, et puis ça a été la suite, j'abrège tout cela, je suis rentré, après avoir servi 20 ans, après avoir eu deux femmes qui voulaient des enfants à tout prix, qui n'étaient pas satisfaites de ne pas en avoir assez vite, et qui prenaient leur servante, imitant leur grand-mère Sarah. Et voilà, je suis arrivé avec 11 enfants, 12 même, parce qu'il y avait une fille. Et puis, j'ai gardé les troupeaux de mon beau-père. Nous nous sommes finalement bagarrés. Mais Dieu, dans sa grâce, m'est apparu et m'a dit, retourne dans ton pays. Et ma Rachel avait eu un fils, Joseph, et quand il était né, elle avait dit que Dieu en apporte encore un autre. Et elle l'a eu. Mais hélas, quand on rentrait, j'ai perdu Rachel au bord du chemin de Bethléem. Pourquoi ? Bien parce que Rachel avait menti, elle aussi. Et puis, on avait volé à Laban ses téraphèmes. Mon beau-père m'avait accusé. Et j'avais dit, mais tu peux fouiller tout mon camp quand je fuyais loin de Laban. Tu peux fouiller tout mon camp. Et là où tu trouveras les téraphèmes, la personne qui les aura mourra. J'avais dit. Mais Rachel, elle s'était arrangée pour cacher tout cela. Elle avait dit, j'ai mes règles, je ne peux pas me lever. Elle s'était assise là, comme ça. Vous voyez, on avait des expédients en ce moment-là. Mais moi, j'avais dit cela, elle mourra. Et elle est morte. C'est peut-être pas tout de suite qu'on voit les choses. Mais, en tout cas, vous me demandez qui est Dieu. Ben, je pourrais vous le dire. C'est un Dieu qui a des oreilles. C'est un Dieu qui nous prend au mot. Alors faites attention aux paroles que vous prononcez. Parce que vous serez liés. Dieu a des oreilles. Dieu est un Dieu de vérité. Ben, il nous discipline. Mais quand je retournais 20 ans plus tard et que j'avais peur de rencontrer Esaü, j'ai eu cette vision des anges et j'ai appelé ce lieu Mahanaïm. Et puis ensuite, j'ai eu ce combat avec un inconnu et j'ai su que c'était l'Éternel, que c'était lui qui allait me donner la victoire. J'ai lutté contre lui. Et pour finir, quand j'ai vu que j'étais vaincu, eh bien, je me suis accroché à lui. Au lieu de combattre Dieu, eh bien, je me suis accroché à lui. Et j'ai eu la délivrance, la bénédiction, mon âme a été délivrée. Mais la suite, eh bien, oui, je pourrais vous parler de mes épreuves. Quand Joseph était orphelin, après la naissance de mon Benjamin, eh bien, les frères de Joseph ont été cruels et méchants à son égard. Et il a été vendu en Égypte. J'ai su tout cela plus tard. Mais un jour, à cause d'une famine, j'ai envoyé mes fils en Égypte. Et finalement, Joseph s'est fait connaître à eux, leur a pardonné et m'a fait venir. Et Dieu, là, m'a dit, et il m'a parlé, il m'a dit, va en Égypte, descends en Égypte, je t'en ferai remonter, tu verras même les fils de Joseph. Alors, je suis allé, j'ai obéi et j'ai vu les fils de Joseph, j'ai embrassé Joseph et maintenant, eh bien, à la fin de ma vie, qu'est-ce que j'ai pu dire au Pharaon quand je l'ai rencontré ? Les jours des années de ma vie ont été courts et mauvais. Ils n'ont pas atteint les jours des années de la vie de mes pères. Puis, j'ai confessé aussi devant Joseph que celui qui avait été le Dieu d'Abraham, le Dieu de mon père Isaac, il avait été pour moi mon berger, le Dieu devant la face desquels ont marché Abraham, mon père, et Isaac. Mais je ne peux pas dire que moi j'avais toujours marché devant l'Éternel, mais pourtant je peux dire que malgré toutes mes fautes, il m'a ramené. C'est pourquoi je dis, qui est Dieu ? Eh bien, il est le berger. Il a été pour moi le berger. Et vous me demandez, qui donc est Dieu ? Eh bien, je puis vous dire qu'au soir de la vie, j'ai pu adorer en finale. Appuyé sur le bout de mon bâton, j'ai pu adorer ce Dieu qui m'avait gardé au travers de toutes mes épreuves, qui aurait pu me rejeter et qui m'a supporté, qui m'a consolé, qui m'a délivré, qui donc est Dieu. C'est le Dieu qui a des yeux, c'est le Dieu qui a des oreilles, c'est le Dieu qui a un cœur, mais c'est le Dieu qui a aussi une main pour frapper quand nous devons être disciplinés, mais aussi pour nous bénir quand nous avons besoin de sa bénédiction. Seigneur, donne-nous de savoir te prendre au sérieux. Donne-nous de bannir de nos cœurs le mensonge. Apprends-nous à ne pas vouloir amener une délivrance par des procédés humains que tu ne pourrais pas reconnaître, même si nous nous croyons à tes paroles. Préserve-nous de tout faux pas et donne-nous d'être comme Jacob à la fin de sa vie lorsqu'il bénissait ses enfants et qu'il s'arrêtait en pouvant dire « J'ai attendu ton Jésus, ton salut. » Amen. Du matin 23 juillet, nous poursuivons notre étude sur le thème qui donc est Dieu. Et une fois de plus, je vous rappelle le texte d'ouverture de notre camp. L'Éternel m'est apparu de loin. Je t'ai aimé d'un amour éternel. C'est pourquoi je t'attire avec bonté. La question qui annonce notre thème, qui donc est Dieu, nous allons la poser ce matin à un arabe. Un arabe puissant, qui vivait au pays d'Outz, au temps des patriarches. Vous l'avez deviné, il s'agit de Job. Job, dont le nom veut dire persécuté, triste. Son existence historique est prouvée dans le livre d'Ézéchiel par Dieu lui-même et qui parle de Noé, de Daniel et de Job qui, en un certain temps, ne pourraient sauver personne sinon eux-mêmes. Pourtant, ces trois hommes ont été des grands intercesseurs et dans le temps où ils vivaient, ils ont sauvé de nombreuses personnes. Dans l'épître de Jacques aussi, il est question de la patience de Job. Donc, Job n'est pas simplement un monument de littérature des temps anciens. C'est un homme qui a eu une existence réel. Et dans cet épître de Jacques, il est dit, vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. C'était donc un homme riche, auquel il ne manquait rien, il était droit, il craignait Dieu, et il se retirait du mal. Cet arabe est un exemple pour beaucoup. Prince au milieu de son peuple, il était honoré, respecté, et il avait une famille magnifique. 10 enfants, 7 fils et 3 filles. Et sur ses enfants, qui étaient devenus grands, il continuait à veiller sans cesse. Cet homme se levait de bonne heure et il offrait des holocaustes après les festins que ses enfants faisaient aux anniversaires d'un frère ou d'une sœur, parce que Job avait toujours peur que dans ces festins, l'un ou l'autre de ses enfants ait maudit Dieu. C'est si facile d'avoir sur les lèvres, quand on a bien mangé et bien bu, des paroles qui sont déshonnêtes, qui n'honorent pas Dieu. Alors, Job était sensible à cela, et il réunissait ses enfants, il offrait des holocaustes au Seigneur pour demander pardon de ce qui aurait pu être fait et qui aurait déshonoré son Dieu. Mais alors, qui donc était Dieu pour ce Job? Il va nous répondre, puisque quoique mort, il parle encore, puisque Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais que pour lui, tous vivent comme nous l'avons vu. Mon Dieu, dit-il, mais ce n'était pas un autre que le Dieu d'Abraham, c'était le Dieu Tout-Puissant. Je l'ai toujours appelé le Dieu Tout-Puissant, je l'ai appelé le Saint, je l'ai même appelé mon Rédempteur vivant. Pendant longtemps, je croyais le connaître, mais au fond, je ne le connaissais que de loin. Je croyais l'honorer en vivant dans sa crainte. je lui attribuais toutes mes bénédictions, car j'étais un homme heureux. Je me sentais environné, entouré d'une haie de protection, et je pensais que rien de mauvais ne pouvait m'arriver. Et voici qu'un jour, tous les malheurs possibles sont tombés sur moi en véritable cascade. Je perdis successivement tous mes employés, tous mes serviteurs, je perdis tous mes biens, mes troupeaux, je perdis encore ce qui fut plus douloureux, figurez-vous, mes 10 enfants en un seul jour, dans une tornade. La maison où ils s'étaient rassemblés s'est effondrée sur eux, et il y a juste eu un serviteur pour venir m'annoncer la nouvelle, que mes 10 enfants, mes 3 filles que j'aimais, que je chérissais, mes 7 fils pour lesquels j'ai tant prié, tous étaient morts. 10 enfants. Alors, oh, je n'ai pas été stoïque dans une pareille épreuve. Je ne me suis pas raidi. J'ai déchiré mon vêtement. J'ai mis de la fonte sur ma tête, comme on le fait habituellement en Orient. Et puis, je me suis prosterné, mais j'ai dit à Dieu, tu as donné, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que son nom soit béni. Il m'a donné la force, mon Dieu, de pouvoir encore le bénir, lors même qu'il m'avait tout enlevé. Mais je ne comprenais pas. Et voilà que je pensais rester avec ce lot d'épreuves, quand subitement, c'est moi-même qui fus atteint d'une terrible maladie qu'on appelait la lèpre noire. Et je souffrais tellement, mon dénuement était si grand que je prenais un tesson pour me gratter des démangeaisons horribles, mon corps couvert de pustules. Et alors, la 6e épreuve, ce fut ma femme, la seule qui me restait, et qui, ne pouvant plus me voir souffrir d'une telle manière, m'a dit, maudit Dieu, elle meurt. Maudire Dieu. Mais ma femme chérie, tu parles comme parlerait une insensée. J'ai pu lui dire ça, mais nous avons reçu quand même les biens de la main de Dieu et nous ne recevrions pas les mots. Mais alors j'avoue que la 7e épreuve, j'ai pas pu la supporter. C'est là que j'ai vraiment coulé. Figurez-vous que j'avais des amis que j'aimais beaucoup, qui m'aimaient aussi, enfin je pensais, et ils sont venus pour me consoler. Et au fond, c'est eux qui m'ont mis dans le trou. Mes amis, oui, il y avait quelqu'un qui disait, gardez-moi de mes amis, moi je me charge de mes ennemis. Et c'était vrai. Mais eux, ils ont peut-être été bien intentionnés, mais tout ce qu'ils ont dit, j'ai dû leur dire, mais vous êtes des consolateurs fâcheux. Parce qu'ils essayaient de trouver une explication à mes épreuves, et finalement, tout en voulant m'encourager, ils essayaient de me montrer qu'il y avait en moi un péché caché. Ils se faisaient, au fond, des accusateurs. Et les arguments qu'ils donnaient pour leur Dieu, qui est aussi mon Dieu, eh bien, ça ne collait pas. Puis tout ce qu'ils disaient, tout ce qu'ils me disaient, je le savais déjà. De sorte que c'était des phrases de sympathie, de commisération. Il prenait des airs tout à fait peinés, et puis il voulait me consoler avec cela. Alors je leur disais, vos retranchements sont des retranchements de boue, vos arguments sont des arguments de sable. Et j'étais dans la souffrance. Alors, évidemment, j'ai eu des paroles qui n'étaient peut-être pas pour les rassurer sur ma relation avec Dieu, parce que il y a eu des moments où je disais, mais est-ce que ma force est la force des pierres? Ma chair n'est pas des reins. Oh, j'aurais voulu pouvoir trouver Dieu, je lui posais des questions, mais il y a des moments où j'étais tout à fait dans la nuit, et je ne me souvenais plus de ses bénédictions. Alors je criais, oh, si je pouvais le trouver, parvenir là où il est assis, j'exposerais ma cause devant lui. Et vous verriez bien qu'il me justifierait, car il est mon témoin dans les nues, et il ne ment point. Puis après je passais de nouveau par un moment épouvantable de gouffre, dans le gouffre, et De nouveau, j'avais une aide, parce que je dois bien l'avouer, malgré tout, il me donnait une espérance et je me suis écrié un jour, je sais que mon Rédempteur est vivant et que le dernier, il sera debout sur la terre. Donc je gardais ma foi, mes épreuves ne me faisaient pas perdre ma foi, mais je ne comprenais pas. Je n'avais pas le livre de Job pour m'expliquer ce qui s'était passé au sujet de mes épreuves. Et alors, figurez-vous, c'était cela qui me tracassait. Je pensais aux jours d'autrefois où j'étais bien vu, parce qu'une fois qu'on est pauvre, hein, on est méprisé par tous. Job sur son fumier, et je servais de chanson au buveur. Alors, mes amis, oui, à un moment donné, j'ai pu faire taire tous mes amis. Il ne pouvait plus rien dire. Alors, il en est venu un quatrième, qui était mieux, celui-là. Il m'a approché d'une autre manière. Il m'a dit, tu sais, Job, je suis comme toi quant à Dieu. Moi aussi, je suis fait d'argile. Ma terreur ne te troublera pas, mon poids ne t'accablera pas. Mais toutefois, je voudrais te demander, est-ce que tu crois que tu as dit juste quand tu dis cela au sujet de Dieu? Puis, il m'a parlé de la nature, il m'a parlé de beaucoup de choses. Puis, tout à coup, moi, je ne pouvais pas lui répondre parce que c'était vrai ce qu'il disait. Il ne me jugeait pas. Mais tout à coup, il s'est tu. Et puis, quelqu'un d'autre a pris la parole. Et c'était Dieu lui-même. Celui que j'avais invoqué, l'Éternel. Il m'a parlé du sein de la tempête, du sein du tourbillon. Moi, j'avais 7 fois crié à lui en lui disant, réponds-moi, réponds-moi. Voilà que tout à coup, après mes 7 demandes, il me répond. Mais savez-vous, il a répondu à aucune de mes questions. Il m'a posé des questions. Et figurez-vous combien il m'en a posé, au moins 70. 50 d'abord. J'étais collé sur tout. Je ne pouvais pas répondre. Alors j'ai commencé à avoir une autre idée. Je me suis dit, mais j'ai parlé sans comprendre de merveilles qui me dépassent. Et ce Dieu, simplement en me posant des questions, m'a remis gentiment à ma place. Et alors, je me suis effondré devant lui. Et j'ai compris tout à coup pourquoi j'avais dû passer par tant d'épreuves. Il ne m'expliquait pas le pourquoi de la souffrance, mais il me montrait que si je me pensais juste, je ne me connaissais pas moi-même. Lui pouvait dire qu'il me voyait juste, mais moi, je me savais un homme bien, un homme bon, et je ne me connaissais pas moi-même. Alors je me suis effondré, et je lui ai dit, j'ai horreur de moi. C'est vrai que jusque-là, j'avais une tellement bonne opinion de moi, de ma piété, de ma droiture. Je disais tout le temps, je. Et tout à coup, j'ai compris, lui. Et c'est là que je me suis écrié, je sais que tu peux tout, et qu'aucun des saints ne s'oppose à tes pensées. Et j'ai été alors libéré. Quand j'ai pu dire, j'ai horreur de moi, eh bien, je puis vous dire ce qu'il a fait, et il m'a donné tout au double. J'ai pu pardonner à mes amis, j'ai pu prier pour eux, et j'ai reçu le double. J'ai encore eu le double des biens matériels, et puis mes enfants, d'autres enfants, le même nombre m'ont été donnés par la grâce de Dieu, et j'ai pu vivre encore dans une heureuse. Alors, qui est mon Dieu? Qui donc est Dieu? Eh bien, c'est le Tout-Puissant. C'est le témoin dans les cieux, c'est celui qui nous aime, c'est notre Rédempteur vivant. Sachons nous courber devant lui, et comme j'ai été béni, vous le serez vous aussi, et j'espère que dans ce camp Mahanaïm, vous recevrez tout au double. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour le témoignage de cet arable que tu as aimé, d'un amour éternel. Il avait entendu ta parole, il était sauvé, mais il ne te connaissait pas encore. Comme il faut te connaître, car quand on apprend à te connaître, quand on est amené dans ta lumière, on se voit si petit, et c'est alors que tu peux nous élever, c'est alors que tu peux nous bénir. Nous te louons, nous te bénissons pour ces hommes qui nous ont dit et qui nous disent encore qui a été leur Dieu, et que nous aussi nous puissions connaître un tel Dieu aujourd'hui et jusqu'à ce que tu viennes. Amen. Même en nous posant toujours cette question, qui donc est Dieu? Et je vous rappelle notre texte d'introduction. L'Éternel m'est apparu de loin. Je t'ai appelé pour éternel. C'est pourquoi je t'attire avec beaucoup. Il y a de ce visage, si bien que c'est un voile. Dieu qui haute estime qu'à sa mort, c'est lui-même qui l'enterra. Et cet homme, la veille même de sa mort, attention mes amis, gravit une montagne sur l'ordre de Dieu. Et du sommet de cette montagne, Dieu lui fit voir la terre promise. Il avait alors 120 ans. Son œil ne s'était pas affaibli et sa vigueur ne s'en était point allée. Il mourut vraiment dans les bras de Dieu, puisque, comme je vous l'ai dit, Dieu lui-même l'enterra. Vous avez certainement reconnu Moïse, le fils d'Amram et de Jochébed, de la tribu de Lévi. Son nom, qui veut dire sauvé des eaux, nous apprendra qu'avant même sa naissance, il avait été condamné à mort. Moïse, toi qui fus un grand prophète de Dieu et un écrivain si remarquable, qui donc était ton Dieu? Mon Dieu, c'était celui de mes parents, de mon père et de ma mère qui en Égypte subissaient les lois terribles du Pharaon. Mes parents craignaient le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et à ma naissance, au lieu de se débarrasser de moi, selon les ordres du roi, ils me cachèrent. Il paraît que j'étais un très beau bébé. Et quand ma mère ne put plus me cacher, alors que j'avais 3 mois, cette femme de foi que fut ma mère, se souvenant de Noé construisant son arche, a confectionné elle-même un petit coffret de joncs qu'elle a enduit de bitume et de poix et qu'elle déposa parmi les roseaux du Nil. Ce qu'elle savait, c'est que la fille du Pharaon venait avec ses filles pour se baigner chaque matin. Et évidemment, la fille du Pharaon a vu ce petit coffret qui flottait sur l'eau. Elle a envoyé une de ses filles pour le prendre. Et quand on l'a ouvert, il paraît qu'on a vu un petit garçon qui pleurait. C'était moi. Mais ma mère était intelligente. Elle avait envoyé ma sœur qui avait déjà quelques années de plus, et qui regardait. comme un enfant s'est regardé avec tout l'intérêt. J'étais quand même son petit frère. Dans ce coffret, il y avait le petit frère. Tu aurais pu être mangé par les crocodiles du Nil. Eh bien non, les crocodiles n'avaient pas attaqué le coffret. Et alors, la fille du pharaon, quand elle a vu ce petit visage, cet enfant et ses grosses larmes, mais son cœur s'est attendri. Puis elle a dit, c'est un enfant des Hébreux, bien moi je vais l'adopter. Mais elle ne pouvait pas le nourrir, il fallait une nourrice. Alors, ma petite sœur Myriam s'est avancée, puis elle a dit, est-ce que tu voudrais une nourrice, je pourrais t'en trouver. Elle est allée chercher ma mère. Et figurez-vous que la fille du pharaon a payé pour que ma mère me nourrisse. Et elle m'a gardé jusqu'à l'âge de 5 à 6 ans, parce que de ce temps-là, vous savez, les saints, ils étaient bien employés. Et on nourrissait un enfant autrement qu'aujourd'hui. Mais bien sûr, vers 4-5 ans, on faisait l'allaitement mixte. Mais ça nous donnait de la force d'avoir le lait maternel. Et Dieu nous bénissait. Alors, c'est pendant ces 5 années que j'ai passé en nourrice chez ma propre mère, que j'ai reçu au fond cet enseignement profond. Ma mère n'a pas attendu que je sois chez la fille du pharaon pour m'envoyer des lettres sur le peuple d'Israël. Elle m'a enseigné dès ma plus tendre enfance toute cette histoire d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je savais cela par cœur. Je connaissais comment Dieu était apparu à Abraham et comment il lui avait dit que ce n'était pas des idoles, Dieu vivant, mais qu'il avait des yeux qui voient et un cœur qui aime et des mains qui bénissent. Alors, ce que ma mère m'avait enseigné dès ma tendre enfance, ce que toutes les mères devraient enseigner à leurs enfants, car vous le savez bien, de jour en jour, on vous dit que à 5 ans, un enfant est déjà tout à fait conditionné, on sait à 5 ans ce que l'enfant sera. Eh bien moi, j'avais reçu jusqu'à 5 ans le véritable enseignement. C'est pas ça qui me sauvait, mais je connaissais ces choses. Et alors, les études que je fis dans les plus hautes écoles égyptiennes, une fois que je fus à la cour du pharaon, alors qu'on m'appelait le fils de la fille du pharaon, ces études ne m'ont pas fait oublier mon peuple. De sorte que, à 40 ans, quand je sortis frais et moulu de ces écoles, j'avais pensé mettre toute ma science au service de ce peuple que je ne pouvais pas oublier. Et je suis allé en pensant qu'il comprendrait que Dieu m'avait vraiment suscité pour les délivrer. Mais j'ai misérablement échoué. Pourquoi ? Parce que, évidemment, je comptais sur ma propre force, sur mes capacités, sur toute mon instruction. Et qu'est-ce que je suis devenu ? J'abrège un assassin en fuite. C'est tout ce que j'ai réussi. Quand j'y suis allé, avec toutes mes bonnes intentions, pensant que c'était juste, eh bien, j'étais un assassin en fuite. Et puis après, je connus l'exil à Madian. Et là, je rencontrais cette fille et leur père trouva bon de m'en donner une, parce que évidemment il n'est pas bon que l'on soit seul. Alors j'ai épousé une de ces filles, elle s'appelait Séphora, et d'elle, fille de Jéthro, sacrificateur à Madian, j'eus deux enfants. Et pendant 40 ans, j'ai conduit les troupeaux de mon beau-père derrière le désert pour leur trouver de la nourriture tous les jours. La même histoire. Partir avec un pique-nique, revenir. Et au bout de 40 ans, j'avais 80 ans. Et c'était un jour, un matin, comme tous les autres. Et c'est là qu'il s'est produit quelque chose d'extraordinaire. Tout à coup, là, derrière le désert, j'ai vu s'enflammer un buisson. Et ce buisson, malgré qu'il semblait que ça allait faire un incendie de forêt, eh bien, ce buisson, il ne se consumait pas. Et ça ne se propageait pas ailleurs. Mais le buisson d'épines brûlait. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cela? Et c'était au pied du Sinaï. Et j'ai regardé, j'ai voulu m'approcher. Et tout à coup, j'ai entendu cette voix, j'ai compris plus tard, que c'était la voix qu'avait entendue Abraham. Moïse, Moïse, n'approche pas, ôte les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te trouves est une terre sainte. Alors, tout tremblant, je me suis prosterné et j'ai entendu cette voix inouïe, cette voix à l'accent ineffable. J'ai vu, donc, c'est quelqu'un qui a des yeux, notre Dieu. J'ai entendu, il a des oreilles, l'affliction de mon peuple, et je suis descendu. Et toi, Moïse, c'est toi qui iras vers le Pharaon. Comment, mais moi, maintenant, j'ai 80 ans. Qu'est-ce que l'Éternel me dit? Car je voudrais bien savoir si c'est vraiment lui. Alors, il me dit, je suis le Dieu de ton père. De mon père, oui, de ton père, Abraham. Donc, je me reconnais. Je suis le Dieu de ton père. Et il précise, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Alors, j'ai une assurance absolue. Mais, il me donne l'ordre d'aller chez le Pharaon. Mais elle va me tuer. Alors j'ai peur. Et je dis, envoie qui tu voudras, Seigneur. Moi qui pourtant voulais être employé, maintenant je n'en ai plus du tout le goût. Et puis, j'ai fait toute espèce d'obstacle. J'ai mis toute espèce d'obstacle. J'ai dit que je ne savais pas parler, que j'avais la langue pesante. Puis il m'a répondu, mais n'est-ce pas moi qui ai fait la bouche de l'homme, qui ai fait le muet, l'aveugle ou le sourd? Il prenait toutes les responsabilités, toutes les misères humaines. Alors, finalement, il s'est fâché. Et j'ai vu ce que c'était que la colère de l'Éternel. Alors, j'ai été saisi et je me suis dit, attention, attention, il ne faut pas provoquer une telle colère parce que j'ai cru mourir. Je suis reparti parce que l'Éternel m'a dit, bien, je t'enverrai à ta rencontre ton frère Aaron, puis c'est lui qui parlera pour toi. Toi, tu lui serviras de Dieu, puis lui sera ton prophète, et puis vous irez les deux vers le Pharaon. Et c'est ainsi que ça a commencé. Nous sommes allés vers le Pharaon, j'abrège tout ce qui s'est passé. Il y a eu les 10 plaies. J'ai dû prier même pour le Pharaon, il n'a rien voulu entendre. Il s'est endurci, et ce que je lui avais dit, de la part du Seigneur, est arrivé. Oh, cette nuit terrible de l'Égypte, où seuls les aînés des Israélites étaient épargnés, quand l'ange destructeur passait.